Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Tours. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale consacrée à la bande dessinée que l'on vous propose de 16h à 18h30 sur le 99.5 FM et le www.radiocampustours.com. Émission spéciale puisque nous sommes en direct du festival à Tours de Bulle. À Tours de Bulle, c'est l'événement Tourangeau dédié à la BD. Le festival a démarré sa 11e édition hier soir au Cinéma Studio et se déroule aujourd'hui et demain place Châteauneuf. Nous tenons à remercier le bar Le Petit Joueur qui nous offre un support technique indispensable pour ce direct depuis la cour Hockey Game. Et puis pour réaliser cette émission, quoi de mieux que de donner la parole à celles et ceux qui se retrouvent chaque année autour de cet événement pour partager leur amour de la bande dessinée. Je veux bien sûr parler de l'équipe du festival à Tours de Bulle qui va mettre la main à la pâte pour cette émission puisqu'ils seront avec nous pour échanger avec les nombreux invités qui vont se succéder autour de cette table. Une première partie de cette équipe est à mes côtés. Philippe Septier, le président du festival, bonjour.
Bonjour.
Alors avant d'accueillir notre premier invité, on va dresser rapidement un sommaire de cette émission qui va se diviser en 5 parties. On abordera la partie jeunesse de la BD avec plusieurs de ses auteurs. On parlera des métiers autour de la bande dessinée avec ceux qui la font. La bande dessinée dans les médias ou la bande dessinée comme média. Et puis dans cette première partie, on va parler de l'Italie, thème de cette 11e édition d'À Tours de Bulle. Avant de recevoir nos invités dignes représentants de l'Italie sur le festival, Philippe, on peut commencer par brosser un rapide aperçu de ce qui va se passer ce samedi et dimanche sur le festival ?
Oui, absolument. Donc, pour commencer un festival de bande dessinée, c'est déjà beaucoup d'auteurs. Une quarantaine d'auteurs sont invités et sont présents, sont actuellement présents et vous pouvez venir les rencontrer sous le Barnum qui est situé place Châteauneuf. Et puis, la bande dessinée, c'est aussi d'autres choses, des expositions. Il y a deux expositions qui sont actuellement pour l'une, Galerie aux Arts, sur le travail de Matteo Alemano et de Riccardo Federici, et l'autre sur le travail et sur notre tour d'ivoire qui est Jean Dittard, La vision de Bacchus. Bon, alors vous pourrez venir voir ses originaux et le rencontrer puisqu'il est là en chair et en os et il va bientôt nous parler aussi. Voilà, donc c'est aussi d'autres choses. Il y a des fresques en réalisation directe par Philippe de la Fuente et Titoine. Titoine, dont on a la chance d'avoir en avant-première le nouvel ouvrage et donc elle avec son scénariste Renald Pellisser. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, des ateliers pour les enfants. Demain, une séance de dédicace interdite aux adultes pour que ce soit vraiment pour le plaisir des petits et enfin du public jeunesse avec les auteurs, 8 auteurs qui viendront spécialement dédicacer et rencontrer le public jeunesse. Et puis, plein d'autres choses. Des petits ateliers de cuisine, des ateliers créatifs pour les enfants, des lectures à voix haute, enfin j'en passe. Mais venez nous découvrir Place Châteauneuf.
On va pouvoir commencer à parler de la partie exposition, notamment du festival, avec notre premier invité, Philippe.
Oui, alors le premier invité est Jean Dittard, qui est donc notre tour d'ivoire, alors qui est aussi quelque part responsable du thème qui est cette année l'Italie, puisque comme chaque année nous élisons un auteur pour son album, un album pour un auteur qui a édité au plus 3 albums. L'année dernière c'était La vision de Bacchus, un magnifique album que je vous invite à découvrir. Cet album se passe à Venise, à la Renaissance. Et il nous a semblé, c'est venu naturellement, l'idée de finalement rebondir sur l'Italie. Voilà, donc ça c'est la raison du thème. Et puis, on a souhaité, comme chaque année, mettre en avant le travail et puis l'album mis comme tour d'ivoire. Donc Jean a réalisé l'affiche, nos t-shirts, une visite commentée qui a eu lieu en début d'après-midi, enfin plein de choses. Et puis, ma foi, voilà. Donc venez le rencontrer.
Jean, quel effet ça fait d'être tour d'ivoire? Il y a un espèce de... On va parler que de vous, finalement, ce week-end.
Oh bah non, parce qu'il y a beaucoup d'autres auteurs invités, d'autres... D'autres discussions, d'autres rencontres avec d'autres mondes, bien sûr, évidemment. Donc voilà, non mais par contre je suis très très heureux d'avoir eu ce prix, effectivement. Et donc voilà, voir les planches exposées, c'est une première pour moi, ça c'est chouette. Voilà quoi.
Est-ce qu'on peut présenter un petit peu à nos auditeurs ce fameux La Vision de Bacchus?
Oui, donc c'est un album qui a été publié, qui est sorti en février 2014 dans la collection Mirage des éditions Delcourt. C'est une histoire qui parle de peintre à la Renaissance à Venise. Donc voilà, c'est une fiction basée sur des personnages réels que sont notamment Giorgione, Antonello de Messine, Giovanni Bellini et Titien. Et voilà, l'idée de parler de peinture, parler du milieu des peintres, de la compétition aussi qu'il pouvait y avoir entre les peintres dans ce petit microcosme qui était Venise, à travers une fiction, un drame en fait, qui peut emmener, je pense, un lecteur qui ne s'y connaîtrait pas aussi bien qu'un lecteur déjà amateur de peinture, voilà.
Vous avez eu des très bons retours finalement sur cette BD à Tours d'Ivoire, mais il y a plein d'autres festivals où vous avez été valorisé via cet album.
Oui, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir un très bel accueil avec plusieurs prix, notamment dans d'autres festivals aussi, le prix de Saint-Malo, le prix Ouest-France, notamment le prix des rendez-vous de l'histoire aussi, de la bande dessinée historique, qui donnera lieu également à une exposition donc prochainement à Blois.
Voilà. Ouais. Parce qu'il faut rappeler que c'est une avant-première au festival à Tour de Bulle.
Voilà, alors c'est-à-dire qu'on a fait un petit partenariat avec BD Boom, et du coup on a une partie de l'exposition des originaux de Jean, et nous on a présenté, enfin on a travaillé sur des aspects de son travail qui sont différents de ceux qui pourront être découverts à Blois. Et je vous invite à aller au rendez-vous de l'histoire et à BD Boom aussi d'ailleurs.
La Vision de Bacchus, qui se déroule à Venise en 1510, parle de la ville et de peinture. Est-ce que finalement c'est un album avec lequel vous avez eu envie de parler de ce que vous aimiez et de ce qui vous influence en tant qu'auteur aussi de bande dessinée ?
Oui, enfin une partie de ce qui peut m'influencer. Effectivement, j'ai une passion pour la peinture de la Renaissance, notamment du Quattrocento. Donc plutôt le 15e siècle. Mon histoire se passe à deux périodes en fait, effectivement la fin du 15e siècle et le tout début, donc 1510 du 16e. Et c'est vrai que c'est une période de l'histoire de l'art qui me plaît particulièrement. Il y a aussi la ville, il faut dire, qui me plaît beaucoup et que j'ai souhaité mettre en scène. Donc ça fait partie aussi des éléments qui m'ont fait choisir ces peintres-là plutôt que d'autres pour raconter cette histoire. Et puis dans ce rapport que les peintres que j'ai choisis peuvent avoir avec mon propre travail, enfin comment ils peuvent m'influencer, c'est vrai que le travail des cases, le travail du dessin, mon travail de mise en scène en tant qu'auteur de bande dessinée a été pour ma part en fait considéré comme un dialogue avec les peintres que je représentais en fait, avec leur peinture du coup, avec la peinture de ceux-là ou de leurs contemporains, mais voilà, pas mal de titres sur la façon de mettre en place un décor, un espace, de travailler les lumières, de travailler les ambiances, voilà, tout un tas de choses étaient dans un jeu d'écho et de dialogue avec la peinture de cette époque-là. Donc ça faisait partie pour moi de l'enjeu en fait de ce livre.
Comment on fait coexister la partie réaliste, parce que j'imagine que vous avez fait des recherches, et puis la partie fictionnelle?
Alors, en fait, au début, j'avais plutôt envie de parler c'était une notion, on va dire, un peu abstraite. C'était la question de la représentation d'un corps peint, comment il pouvait, comment dire, sembler vivant. Cette question-là que se pose tout artiste finalement, même un auteur de bande dessinée essaye de faire vivre ses personnages. Je voulais me confronter à cette question-là à travers une question de peinture. Et finalement, donc je pourrais même pas trop dire à quel moment ça part dans la si ça commence par la fiction ou si ça commence par la recherche documentaire, puisque les choses sont tellement imbriquées. À un moment donné, j'ai choisi, je crois, Antonello de Messine parce qu'il incarnait en fait à son époque il faisait la synthèse de toutes les innovations picturales de son temps en Europe, en fait. À la fois un peintre italien, mais influencé par les Flandres, par même la Provence, enfin ce qui se passait dans beaucoup d'autres territoires. Et il a eu un séjour à Venise qui a duré 2 ans et qui a été crucial à la fois pour lui, puisque c'était l'explosion artistique pour sa part, mais aussi pour l'influence qu'il a pu avoir dans Venise ensuite. Et en fait, ça m'a plu de m'intéresser à ce séjour-là, parce que ça donnait aussi une unité un peu de lieu et de temps à mon récit, qui allait pouvoir le structurer. Et donc y avait, voilà, ces éléments-là, effectivement, sont des éléments qui sont issus de ma documentation, de la recherche historique. Le lien que j'ai pu faire ensuite avec Giorgione, qui est un lien fictif et qui va déterminer toute l'histoire après que je vais pouvoir raconter, c'est un lien que j'ai juste observé par exemple quand je me suis rendu compte que le départ d'Antonello de la ville de Venise, donc on ne sait pas vraiment pourquoi il est parti dans la réalité. Moi, je vais y apporter des réponses par la fiction, mais ça correspond à peu près au moment où est né réellement, enfin dans les hypothèses, puisqu'on ne sait pas non plus exactement quand est né Giorgione, mais voilà, ça correspond à ce moment-là. Donc du coup, ça m'a permis de créer un lien que j'ai exploité à travers ma fiction. Et en fait, tout en a découlé, quoi. Donc la fiction, c'est vrai que c'est globalement une fiction, mais qui va s'insérer dans l'histoire à divers titres, quoi.
Philippe, qu'est-ce que vous avez retenu finalement vraiment de cet album pour qu'il soit tour d'ivoire? Il y a quelque chose qui a été marquant dans cet album et qui a mis tout le monde d'accord finalement au sein de l'équipe?
Alors oui, il faut revenir un petit peu sur la manière dont on fonctionne. Donc on a grosso modo, pour faire brièvement, hein, la Tour d'Ivoire, on part d'une présélection faite par nos partenaires libraires, une quarantaine d'albums qu'on essaye de lire, enfin qu'on lit d'ailleurs, c'est pas qu'on essaye, on les lit, et ensuite, parce que ça se fait au fur et à mesure, on fait des échanges, je passe les détails. Et pour finir, on se réunit la journée Tour d'Ivoire, un dimanche, et à partir de là, on révise pour les albums qu'on a lu il y a quelques temps, et ensuite on procède à l'élection. C'est un système d'abord de main levée, ensuite on attribue des points à chacun. Bref, donc celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points. Alors quelque part, c'est l'album qui a le plus au plus de participants, voilà, et qui est élu. Alors moi, sur le plan personnel, donc je peux pas m'exprimer pour les autres, mais il a quand même, étant donné que c'est lui qui a été élu, il a plu à beaucoup. C'est ce que je disais ce midi à Jean, c'est que moi je l'ai lu à l'époque. Ce que j'avais surtout retenu, c'était le côté travail de recherche, enfin graphique sur les tableaux, les compositions de pages, etc. Et que finalement, j'avais retenu de l'histoire que le côté histoire d'amour, quoi. Parce qu'il y a une vraie histoire, hein. Et que je l'ai relu, enfin je le dis parce que, mais que ça soit bien clair, et que je l'ai relu cette semaine. Et là, j'ai approfondi le travail scénaristique et j'ai vu que finalement, c'est au-delà de l'histoire d'amour, c'est un grand drame finalement. Enfin, même une succession de drames. Voilà. Et moi, c'est-à-dire que non seulement il y a un aspect graphique qu'on peut voir au premier abord en feuilletant l'album, mais il y a un vrai travail scénaristique qui amène, d'abord une réflexion sur les mœurs de l'époque. Enfin, moi, je passe tout ça, mais voilà, il y a du vrai vrai contenu. Et souvent un album, c'est ça, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois un vrai scénario avec une vraie histoire qu'on nous raconte. Et en même temps, on nous la montre, on nous la décrit, quoi. Voilà. Je crois que c'est l'alliance des deux qui a fait que on est élu Jean comme Tour d'Ivoire. Son album, plutôt.
Pour que les auditeurs se représentent un petit peu le travail que ça a pu être, cet album, combien de temps vous avez mis
Moi, j'ai mis 4 ans, en fait, pour le faire. En sachant que j'ai pas fait ça à plein temps, puisque je suis également enseignant par ailleurs. Donc à temps partiel, sinon j'aurais pas pu du tout le faire. Donc voilà, ça a mis 4 ans quand même. C'était effectivement 4 ans qui étaient nécessaires aussi du fait de la quantité de recherche qu'il avait fallu pour arriver à nourrir le projet à ce point-là, on va dire, de l'histoire de la peinture. Parce que c'était du coup dans cette idée de dialogue avec la peinture, c'est aussi très nourri de références effectivement picturales, voilà, de nombreuses fois, et également un travail de reconstitution de tableaux, par exemple, que j'ai dû effectuer Donc il y a eu beaucoup de recherches qui ont aussi fait partie de la durée du projet en fait.
Je pense que chaque auteur a son rythme, oui. À lui, et ses contraintes personnelles et professionnelles aussi quand il exerce un autre métier. On en parle à midi, c'est amusant parce que tu disais qu'à un moment, il y a une séquence de 4 planches qui finalement sont la concentration d'une histoire que tu aurais voulu au départ développer en 30. Donc ça peut être aussi des fois un travail, de réduction, c'est pas le bon terme, mais disons concentration de l'histoire pour que ça tienne dans le délai aussi et la taille de l'album fini.
Oui, là c'était tu fais allusion à 4 pages qui effectivement sont un peu différentes dans l'album et qui ont une force un peu particulière en fait de ce fait là et elles ont été générées par une contrainte de nombre de pages par rapport à ce qui a été estimé dès le départ qui s'avérait finalement les choses avaient beaucoup évolué, j'avais improvisé au fur et à mesure un certain nombre d'éléments et donc décalé beaucoup de choses par rapport à ce que j'avais prévu. Et du coup, la contrainte m'a permis, à partir du moment où j'ai décidé d'en tirer parti, de créer quelque chose de neuf, quelque chose de finalement peut-être plus intéressant que j'aurais fait sans ça, quoi. Mais c'était une question de choix aussi, en fait. J'aurais pu faire le choix de rajouter 30 pages, finalement, plutôt que de synthétiser ces 4 planches comme ça, quoi.
Mais c'était pas plutôt un choix de ton éditeur, ça ?
Mais c'était non. Enfin, disons que la discussion aurait pu tout à fait être ouverte sur le fait de finalement faire 30 pages de plus, et ça aurait aussi mis 6 mois de plus, sûrement, à mon rythme. Donc ça fait partie effectivement des paramètres, mais c'était aussi un choix artistique en fait. C'était l'idée de se confronter à cette contrainte. Elle est souvent féconde, la contrainte. Il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin de la contrainte. Et puis moi, on s'en met tous en fait. On s'en met tous pour avoir aussi des intentions qui vont dans une certaine direction. À différents plans, on se met des contraintes. Elles sont fécondes souvent.
Est-ce qu'on peut parler de ton actualité, Jean Dittard, juste avant de rappeler aux auditeurs où est-ce qu'on va pouvoir voir les planches et l'exposition consacrée à la vision de Bacchus ?
Alors, c'est-à-dire mon actualité. Alors, j'ai pas.
C'est sorti en 2014.
Voilà, le bouquin est sorti en 2014. Voilà, je prépare autre chose, mais qui va être encore un peu long aussi à émerger. Donc, il n'y a pas encore de date de sortie. Et puis l'actualité, mais du coup, elle est plutôt là en ce moment en termes de festival et d'exposition, du coup, puisque il y a une exposition ce week-end à Tours, mais également donc au rendez-vous de l'histoire, j'en parlais à Blois, on en parlait, qui va commencer donc en début, je crois début octobre, je sais plus quel jour, jusqu'à fin novembre, puisqu'elle sera encore visible au festival BD Boom à Blois. Et puis en même temps, en novembre, je serai présent aux rencontres de la bande dessinée de Valence. Et il y aura aussi une exposition de planches. Alors d'autres, ce ne sera pas les mêmes, évidemment. et puis voilà, grosso modo, pour le moment.
Donc là, on retrouve ton exposition, salle Jean Hockeguem. Tu disais tout à l'heure, c'était une première pour toi d'exposer des planches ?
Oui. J'avais déjà exposé des planches d'un album précédent, mais c'était pas des planches originales, je crois que c'était des facsimilés dans une bibliothèque. Là, c'est la première fois qu'il y a des expositions d'originaux avec aussi un travail de commentaires autour qui donne aussi un éclairage sur certains aspects de l'album, etc. Donc, en plus, c'est vrai que c'est exposé dans un très beau lieu, donc ça fait plaisir, c'est vraiment chouette.
Bah, merci beaucoup à toi d'être passé sur le plateau et sur cette émission spéciale.
Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup Jean Dittard. Philippe, on va poursuivre avec notre nouvel invité qui vient d'arriver.
Absolument, Matteo Alemano, il faut quand même juste peut-être faire un parallèle. D'abord, c'est un auteur italien et comme cette année le thème est l'Italie, on a souhaité inviter quelques-uns de nos amis transalpins à venir nous rejoindre. Et puis, on a organisé une exposition à la Galerie aux Arts sur son travail, et aussi sur le travail de Riccardo Federici, parce que ça nous a intéressé de comparer sa vision de Venise avec celle de Jean Dittard, les époques sont différentes, et puis celle de Riccardo Federici. Je vous invite à venir voir l'exposition, c'est vraiment un très très beau travail, et puis ça permet de montrer aussi toute la diversité et la qualité du travail, et puis le point de vue de chaque auteur, l'univers de chaque auteur, quoi. Je crois que c'est quelque chose aussi qu'on cherche à montrer, d'avoir des auteurs qui ont des points de vue différents pour le montrer au public, et là d'avoir 3 points de vue différents sur Venise, je pense que ça, c'est intéressant.
Ah bonjour, Matteo Alemano. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par présenter cette exposition et l'album qui y est
Oui, alors l'exposition, bah, je vais demander au
premier concerné.
Voilà, Mathéo qui pourra. Alors, je suppose, enfin, j'imagine que tu as été voir l'exposition, non, pas encore peut-être.
Oui, je l'ai vu.
Tu l'as vu. Non, moi qui l'ai. Alors, j'ai participé à sa préparation. On a fait la mise sous l'encadrement, etc. Puis la mise en place dans la galerie. Non, vraiment, c'est un très très beau travail avec des. Alors, c'est un travail avec des couleurs directes. Enfin, bon, c'est très techniquement très très fort, quoi, faut dire les choses. Hein. Très beau travail. Je pense que tous les gens qui l'ont vu, moi, tous les échos que j'ai vus, ont été épatés par ces planches. Voilà. Donc, je pense que Mathéo, tu pourras peut-être aussi nous donner ton point de vue vis-à-vis de ça. Effectivement, nous parler de l'album qui est la base de ces planches.
Bah oui, en fait, c'était mon rêve de pouvoir travailler sur Venise, parce que j'habite à Venise, et alors ça faisait longtemps que je voulais faire une histoire sur Venise. L'idée, en fait, est partie du scénariste Zidrou, avec lequel j'avais déjà fait une autre série qui s'appelle Les Protectos, et qui, à un moment donné, m'a demandé s'il y avait quelque chose que je voulais faire. Et moi, je lui ai répondu oui, j'aurais une idée sur Venise, la piraterie et surtout la période qui c'est le 14e siècle, qui est un moment de Venise, où Venise est très puissante, c'est une puissance commerciale, militaire et tout ça. Et c'est un moment de l'histoire de Venise qui n'est pas trop représenté dans les films, dans la littérature, dans la bande dessinée. Et alors là, on s'est lancé un peu sur cette idée, il a apprécié l'idée, il a essayé d'écrire quelque chose, et puis on a présenté ça à l'éditeur qui a accepté l'idée. Et donc on est parti sur cette piste. Et en fait, c'est un hommage à Venise, c'est un hommage à la ville où j'habite depuis 30 ans, et c'était quelque chose que je voulais faire, surtout pour montrer une image de Venise pas connue en fait. Normalement, on parle de Venise pour le 18e siècle. Il y a des séries de bandes dessinées aussi sur ce côté-là. Mais dessiner la Venise de 14e siècle, c'était vraiment un défi différent, surtout parce qu'il n'y a pas trop d'images, par exemple, sur cette ville. On ne sait pas vraiment comment c'était. On a des chroniques, on a des documents en général, on a des descriptions, mais on n'a pas d'images. Et alors, c'est fascinant pour moi d'essayer de le plus possible de me rapprocher à cette ville-là, et même en sachant que c'est impossible en fait, parce qu'on n'a pas vraiment la possibilité de se rapporter à quelque chose de définitif ou de certain sur la ville de l'époque. Bien sûr, il y a des tableaux, il y a des gravures, mais qui sont d'un siècle après.
Jean Dieter, j'en profite, vous êtes toujours là, vous avez eu ce même rapport aussi à Venise, pareil, il n'y a pas de représentation.
Aussi, moi, mon histoire se passe à un moment où il y a déjà beaucoup de représentations, précisément c'est un siècle plus tard en fait. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que du coup, moi je suis allé à Venise, donc j'ai quand même voulu, enfin, je pense avoir fait le projet aussi parce que déjà avant j'étais allé à Venise. J'adore cette ville, j'aime sentir l'esprit des murs qui transpirent, etc. Mais ma représentation de Venise, elle est nourrie essentiellement des peintures justement de cette époque-là, de la fin du 15e siècle, notamment de Carpaccio ou de Gentile Bellini, qui ont beaucoup représenté la ville, des extérieurs mais aussi des intérieurs, pour Carpaccio par exemple. Et donc je trouve ça très intéressant d'avoir aussi le regard de quelqu'un qui vit à Venise, qui a la connaissance beaucoup plus intime de cette ville, et puis qui va rechercher effectivement à représenter un Venise qui est beaucoup moins, lui, pour le coup, connu, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de représentations. Hein.
Oui, tout à fait.
Alors, on est pris par le temps, donc j'ai juste une dernière question pour vous, Matteo Almano. J'en profite. Si vous deviez comparer la bande dessinée française et la bande dessinée italienne, quelles seraient leurs différences et leurs caractéristiques propres ?
Bah, c'est une question assez difficile, assez longue, complexe, mais pour être un peu rapide, comme ça, je dirais que surtout la bande dessinée italienne est concentrée sur des séries et sur les personnages, surtout sur les personnages. Je dirais ça, même si la bande dessinée italienne est en train un peu maintenant de changer, d'évoluer, le monde change, le public change, voilà. Mais la différence la plus importante, je dirais que c'est cette attention aux personnages, donc les grands personnages de la bande dessinée italienne, Corto Maltese, Tex, sinon les personnages de Bonelli et tout ça, En France, par contre, dans le monde francophone, par contre, l'attention, à mon avis, est plus concentrée sur les auteurs, sur le travail des auteurs. Et je dirais ça, mais je pourrais oui. continuer. Il y a le format des albums, le fait que chez nous, on dessine en italien, je dirais, donc plutôt en noir et blanc. Et ici, en France, on dessine avec la couleur surtout, mais ça aussi, c'est en train de changer, se mélanger, parce que les communications sont plus faciles maintenant, et voilà.
Merci beaucoup Matteo Alemano d'être passé sur le plateau et sur cette émission spéciale en direct du Festival à Tour de Bulle. Je rappelle donc que l'exposition se tient à la galerie Aux Arts,
oui.
où on retrouve donc l'album Marina de Matteo Alemano qu'on a eu à l'instant, et Saria de Riccardo Federici.
Oui, et c'est ouvert jusqu'à demain soir à la galerie. Voilà, profitez-en bien et profitez pour venir nous voir aussi.
Vous l'aurez compris, donc c'est l'Italie et la bande dessinée qui sont à l'honneur dans cette émission spéciale en direct du festival à Tour de Bulle, place Châteauneuf à Tours. Qui dit Italie dit musique italienne. On écoute donc Pino D'Engio avec Che Idea et on revient dans quelques minutes pour parler BD et médias sur Radio Campus Tours.
Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata. Con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah,
si dice così, no? E poi,
che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai.
M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata. Un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!
Si dice così, no? E poi...
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in tondo senza avere mai cose che pretendi in fondo, scusa in cambio tu che dai?
Mm-hmm.